Alors ce matin, nous allons considérer un message de la plus haute, qui est de la plus haute importance. Et il se pourrait que vous ayez déjà entendu parler de ce message. Mais même si vous avez déjà entendu parler de ce message, sachez que ce que nous allons voir en ce matin sera plus développé que ce que nous avons déjà pu dire concernant ce message. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu pour savoir de quoi il s'agit, je vous inviterai à vous prosterner avec moi pour demander à notre Seigneur et Sauveur, à notre Dieu et Père, son Esprit Saint pour comprendre. Tendre Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole et d'entendre ta voix. Nous te demandons de bien vouloir nous conduire dans ta vérité afin que nous puissions remporter la victoire et hériter de toutes choses. Merci Seigneur pour cela. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Être préparé pour le retour de Jésus devrait être l'objectif de tout adventiste. Mais que signifie être prêt pour le retour de Jésus? Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Qu'est-il attendu des croyants des derniers jours, quant à cela. Jésus déclara dans Luc chapitre 18, je vous invite à vous rendre avec moi dans Luc 18, l'évangile selon Luc chapitre 18, et nous lirons la deuxième partie du verset 8. Luc, chapitre 18 et la deuxième partie du verset 8, où Jésus déclara, Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Supposons que je dise à ma femme, Vais-je trouver le repas préparé quand je rentrerai? Je lui laisse ainsi entendre que par là que j'espère voir le repas après quand je rentrerai. Et voyez-vous, mes amis, ce fut la même chose pour Jésus. En parlant de son retour, il laissa entendre à ses auditeurs qu'il espérait voir la foi vivante quand il reviendrait. Et cette question de Jésus que nous avons lue en Luc 18, verset 8, est reliée à l'événement décrit au verset 14 du 14e chapitre de l'Apocalypse, où nous lisons « Je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et j'ai lu ici Apocalypse chapitre 14, verset 14. Et voyez-vous, avant que cet événement se produise, Jean vit un groupe de personnes ayant deux caractéristiques. En effet, au verset 12 du même chapitre, nous lisons que c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici, mes amis, que se trouve la réponse à la question posée par Jésus dans Luc 18, verset 8. Mes amis, comprenons-nous ce qu'est la foi de Jésus? Nous le devrions. D'après l'inspiration, la foi de Jésus est l'un des piliers de notre foi. En effet, dans le livre Counsels to Writers and Editors à la page 30, nous lisons que l'écoulement du temps en 1844 fut une période de grands événements ouvrant à nos yeux ébahis la purification du sanctuaire céleste apparaissant dans les cieux et ayant décidé du rapport avec le peuple de Dieu sur la terre. Aussi, les messages du premier et du deuxième ange ainsi que du troisième déployèrent la bannière sur laquelle étaient inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des points de repère dans ce message était le temple de Dieu vu dans le ciel par son peuple qui aime la vérité, ainsi que l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du quatrième commandement exhibait ses puissants rayons sous le sentier des transgresseurs de la loi de Dieu. La non-immortalité des méchants est un vieux point de repère. Mes amis, devrions-nous comprendre la foi de Jésus? Oui, nous le devrions, mes amis. Il nous a également été dit que les prédicateurs devraient en parler lors des camp meetings. En effet, dans The Review and Herald, le 22 mai 1900, paragraphe 17, il nous a été dit, dans l'œuvre ayant lieu lors de nos camp meetings, nous devrions mettre en avant les vérités du message du troisième ange. Élevez l'étendard, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Faites de cela le thème important. Ensuite, entourez-le par de puissants arguments et rendez-le encore plus vigoureux. Insistez davantage sur l'Apocalypse. Lisez, expliquez et appliquez ces enseignements. Mes amis, comprenons-nous la foi de Jésus? Nous le devrions. Lorsque nous considérons le message du troisième ange, nous voyons que les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont opposés à la marque de la bête et son image. En d'autres termes, éviter la marque de la bête et de son image signifie garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus est la seule manière d'éviter la marque de la bête et de son image. Mes amis, comprenons-nous la foi de Jésus? Nous le devons. La question de Jésus en Luc 18, verset 8, était due à la connaissance prophétique qu'il avait des événements des derniers jours. Il savait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pouvons-nous lire dans 1 Timothée, chapitre 4. Verset 1. Et que cela arriverait parce que les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se détourneront vers des fables. Et Paul ajouta, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardez la foi. Pouvons-nous lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3, 4 et 7. Par son serviteur, Paul Jésus déclara au jeune pasteur Timothée, si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Pouvons-nous lire dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. Affermir les croyants dans la foi est le devoir de base des serviteurs de la parole. En effet, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, nous lisons, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Après avoir lu ces paroles de la plume de l'apôtre Paul, nous pouvons remarquer que lorsqu'il emploie le terme « foi », il signifie par là « doctrine ». Il veut en fait parler de la doctrine. La sainte, la saine, bonne et sainte doctrine, mes amis. Il y a plusieurs références qui présentent la foi comme un système de doctrine. Et celles qui s'affichent en sont quelques-unes. Ainsi, si la foi est égale aux enseignements ou à la doctrine, alors la foi de Jésus doit être égale ou doit signifier les enseignements ou la doctrine de Jésus. Telle était la compréhension qu'avaient les pionniers adventistes. William Miller déclara à cette époque de religion populaire et où plusieurs, pour des motifs politiques et mondains, unirent leur nom au peuple de Dieu, il y en avait encore quelques-uns qui conservaient la doctrine du Christ et ne reniaient pas la foi. Joseph Harvey Wagoner déclara « La foi de Jésus couvre l'ensemble du système de remédiation, l'Évangile, et inclut toutes les doctrines et tous les devoirs particuliers de l'Évangile. » Joseph Bates, quant à lui, déclara « Il me semble à présent que nous pouvons comprendre Jean dans le texte. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, les 10 qu'il écrivit sur les tables de pierre, et la foi de Jésus, ce qu'il enseigna à ses disciples, tel que dans les dernières instructions précédente. Le pasteur Hiram Smith, quant à lui, déclara à ce propos, « Ils, les 10 commandements, sont les commandements de Dieu auxquels nous amène le troisième message d'Apocalypse 14 en rapport avec la foi de Jésus, laquelle comprend tous les enseignements et les préceptes du Christ et de ses disciples dans le Nouveau Testament. » Et il cite Apocalypse 14. Verset 12. Et Ellen G. White, quant à elle, déclara « J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ils ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament. » Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. Avez-vous déjà entendu beaucoup d'adventistes du septième jour modernes ou des croyants, des chrétiens, d'autres dénominations enseigner cela aussi clairement et ouvertement que ce que nous venons de voir, mes amis? Pour ma part, la réponse est non. Mais pourquoi un tel état de choses? Certainement parce que cela implique la doctrine du Fils de Dieu. En Jean chapitre 5, versets 17 et 18, je vous invite à vous rendre avec moi en Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus était en train d'enseigner les Juifs concernant sa filialité, c'est-à-dire le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Et mes amis, voyez-vous, cela était une partie de sa doctrine. Et c'est pour cela que Jésus déclara plus loin, au chapitre 7 du même évangile, je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, et lisons les versets 14 à 16. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés et disaient, « Comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Quelle était la doctrine que le Père donna à Jésus? Quelques-uns pourraient dire, « Oh, nous n'étions pas dans l'éternité avec eux, donc nous ne pouvons pas le savoir. » Lorsqu'une armée doit envoyer quelqu'un en mission en pays étranger, ce missionnaire sera instruit avant de quitter son pays, n'est-ce pas? Cependant, une fois sur le champ, le missionnaire pourrait avoir besoin d'une confirmation concernant sa mission. Évidemment, il ne sera pas instruit tel qu'il le fut avant d'avoir quitté son pays, mais il peut recevoir les informations mêmes dont il a besoin une fois arrivé en terre étrangère. Avant de venir sur terre, Dieu a dit beaucoup de choses à Jésus. Mais la Bible rapporte que le Père déclara à Jésus « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai son père et il sera mon fils. » Lisons-nous dans Hébreux, chapitre 1, verset 5. Les évangiles nous rapportent que le Père n'a parlé que trois fois. Donc, lorsque le Père parla, cela était très important. Lorsque Jésus démarra sa mission dans le champ étranger de cette terre, Dieu n'a pas rappelé à Jésus tous les enseignements qu'il avait reçus au ciel. Mais il lui communiqua celui qui était le plus important, celui dont il avait le plus besoin. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, Matthieu, chapitre 3, verset 17, nous trouvons cet enseignement. Et il se lit comme suit. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Lisons-nous dans Matthieu 3, 17, dans la deuxième partie du verset 17. La filialité du Christ à Dieu est la doctrine la plus importante que Jésus a reçue de son Père, mes amis. Nous pouvons donc comprendre pourquoi les évangiles, mais aussi la Bible entière, insistent souvent sur cette partie de sa doctrine. Mais en dépit de cette clarté, certaines personnes déclarent que l'enseignement de la filialité de Jésus n'est pas si simple et que cela cache un mystère. Dans Jean, chapitre 18 et au verset 20, lorsque le souverain sacrificateur l'interrogea concernant sa doctrine, regardons ce que Jésus lui répondit. Jean 18 et au verset 20. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblent de toutes parts. Et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Le mot « ouvertement » dans ce passage vient du terme grec « paresia », lequel peut signifier « franchise »,« franchement »,« publicité »,« librement », »,« clairement », »,« ouvertement ». Pouvons-nous lire dans le Strong's Dictionary au numéro G3954. Mes amis, Jésus était en train de dire au souverain sacrificateur, « Tu m'interroges concernant ma doctrine, mais ce que j'ai dit au monde, dans la synagogue et dans le temple, a toujours été clair et franc. » Et cela est tellement vrai que ceux qui m'ont entendu sont eux-mêmes capables de t'enseigner ma doctrine. Mes amis, voici la doctrine qui vient de Jésus. Elle est si claire, cette doctrine, et elle est si franche que quiconque l'entend des lèvres de Jésus est capable d'enseigner sa foi, la foi de Jésus. Il n'y avait pas de mystère dans la bouche de Jésus, notamment quant à sa filialité. Mais les théologiens mondains de nos jours déclarent que non, la doctrine de Jésus concernant sa filialité n'est pas aussi claire et si franche que cela. Il joue le rôle du Fils. Mais il est en réalité la seconde personne de la Trinité. Les personnes illettrées ne peuvent pas comprendre cela. Et si comme Jésus, vous réfutez ces paroles, en disant que ceux qui entendent Jésus sont capables d'enseigner sa doctrine, il est alors probable qu'ils vous traitent comme leur père ont traité le maître au verset 22 ou Nous lisons, lorsqu'il eut dit cela, un des sergents qui était présent donna un soufflet à Jésus en lui disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? En d'autres termes, ceux qui ont appris de Jésus sont en train de dire de ces théologiens, ce sont vos enseignements qui empêchent à la véritable doctrine d'être enseignée. Mais peu importe ce que déclarent ou enseignent les corps religieux, nous devons, comme les véritables croyants du premier siècle après Jésus-Christ, eh bien, nous devons être comme eux. Nous devons ne pas renier la foi. Dans Apocalypse, chapitre 2, et au verset 12 et 13, nous lisons Apocalypse, chapitre 2, versets 12 et 13, nous lisons « Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites, où Satan a son trône, et tu retiens mon nom, et tu n'as point renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous, où Satan habite. » Le commentaire du pasteur Huya Smith sur ces versets mérite notre attention. Dans le livre Daniel and Revelation, à la page 354 et 355, il déclara « Le mot Pergame signifie « élevé, élévation ». La période couverte par cette église peut être située à partir des jours de Constantin, ou plutôt à partir de sa prétendue conversion au christianisme en 323 après Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement de la papauté en 538 après J.C. Ce fut une période durant laquelle les authentiques serviteurs de Dieu durent lutter contre un esprit d'habitude mondaine, de fierté et de popularité au sein des prétendus disciples du Christ, et aussi contre les œuvres virulentes du mystère de l'iniquité qui résulta finalement dans le développement complet de l'homme de péché pontife, où Satan a son trône. Christ prit connaissance de la situation défavorable de son peuple durant cette période. Le langage n'est probablement pas destiné à indiquer un lieu. Pour ce qui est de l'endroit, Satan œuvre partout où il y a des chrétiens. Mais il est certain qu'il y a des temps et des saisons où il œuvre avec une puissance particulière, et la période couverte par l'église de Pergame fut l'une d'entre elles. Durant cette période, la doctrine du Christ était en train d'être corrompue. Le mystère de l'iniquité agissait et Satan était en train de poser les fondements même de ce très prodigieux système de méchanceté qu'est la papauté. Ce fut là l'apostasie prédite par Paul en 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il nous est dit que la foi de Jésus a été corrompue par le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire la papauté. Et ceux qui acceptèrent son œuvre renièrent ainsi la foi de Jésus. Mes amis, quels étaient les enseignements introduits par la papauté et qui venaient ainsi s'opposer aux enseignements de la foi de Jésus? La réponse à cette question est une clé importante pour comprendre le combat de la foi que doivent mener les saints d'Apocalypse 14, 12. En effet, Apocalypse 2, verset 13 et Apocalypse 14, 12 sont les seuls versets du livre de l'Apocalypse où la foi dont il est parlé est clairement identifiée à Jésus. Où il est dit clairement que c'est la foi de Jésus. Ou quand Jésus parle, il dit « ma foi ». C'est deux seuls versets là où elle est clairement identifiée comme étant celle de Jésus. Ce qui implique une pureté doctrinale complète. De plus, le contexte de ces deux versets fait mention de l'œuvre de Satan. La papauté, autrement dit. Donc, de nouveau, quels étaient les enseignements introduits par la papauté qui étaient venus s'opposer à la foi de Jésus? La déclaration suivante, laquelle nous vient de la plume du pasteur James White, est une très bonne réponse. Comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont amenées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité et l'état conscient des morts dans une vie de misère. Voilà quels étaient les enseignements introduits par la papauté, lesquels étaient venus s'opposer à la foi de Jésus. Et ceux qui acceptèrent ces enseignements ont renié la foi de Jésus. Mes amis, pensez-vous que ce qui constitua un reniement, une renonciation à la foi de Jésus durant les premiers siècles constituera également un reniement, une renonciation à la foi de Jésus à l'époque d'Apocalypse 14, 12? Moi, je le crois. Je le pense, tout comme le pasteur James White. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sous la terre? Nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sous la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut par Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux. Et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Il devrait donc être clair pour nous qui vivons à l'époque d'Apocalypse 14, 12 que ceux qui continuent à croire et à pratiquer le baptême par aspersion ou qui sanctifient le dimanche sont en train de renier la foi de Jésus. Et bien aimé, il devrait aussi être clair pour nous que ceux qui croient en la Trinité sont également en train de renier la pure et sainte foi de Jésus. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons comprendre la foi de Jésus. Lorsque nous parlons aux gens concernant la doctrine de Dieu, qui est Dieu, ainsi que qui est Jésus, et ainsi que qui est le Saint-Esprit ou ce qu'est le Saint-Esprit? La majorité de ces personnes auxquelles nous parlons n'arrivent pas à voir comment la doctrine de la Trinité laquelle est la principale, laquelle est la principale doctrine qui s'oppose à la connaissance de Dieu, notamment dans le christianisme. La majorité de ces personnes à qui nous parlons n'arrivent pas à voir comment la doctrine de la Trinité est et sera impliquée dans l'obtention de la marque de la bête et de son image. Mais encore une fois, quand nous considérons le message du troisième ange, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, il est clair que ces derniers sont opposés à la marque de la bête et son image. Ainsi, l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus sont l'unique manière d'éviter la marque de la bête et de son image. Mais allons un peu plus loin. Dans Colossiens, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, nous lisons du verset 12 à 15, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Le fait que Christ, le Fils de Dieu, soit l'image de Dieu, est un enseignement clair et répété de l'apôtre Paul. En effet, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, nous lisons que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Et dans Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux, rendons-nous dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 1 maintenant, et lisons le verset 3. Hébreux 1, verset 3, où il nous est dit que, et qui, donc Jésus, étant la splendeur et l'empreinte, c'est-à-dire l'image de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mes amis, sous le message du troisième ange, il n'y a que deux camps possibles. Le camp de la bête, où les gens adorent la bête et son image, tel que nous le lisons dans Apocalypse 14, 9, et en reçoivent le signe, Apocalypse 14, 11, ou le camp des saints, où les gens adorent Dieu et son image, Apocalypse 14, 12, et en reçoivent le signe, Apocalypse 14, 1. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Pouvons-nous lire dans Jean chapitre 4 verset 24. En gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les saints d'Apocalypse 14 12 adorent Dieu et son image, c'est-à-dire son Fils. Jésus-Christ. Mes amis, le signe que nous recevrons dépendra de notre adoration. Nous devons donc demeurer dans la foi de Jésus, dans sa doctrine, afin de garantir notre adoration. Dans 2 Jean, dans la deuxième épître de Jean, et au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Bien des fois, nous entendons dire que la doctrine n'est pas importante. Ce qui est de plus important, ce qui compte le plus, c'est l'amour. Mais les personnes qui disent cela, ces prédicateurs-là qui enseignent cela, mes amis, ils ne vous diront jamais, ils ne vous diront jamais que l'amour se réjouit de la vérité. D'après ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. L'amour qui vient de Dieu ne conduira jamais une église à accepter des erreurs doctrinales. Et voyez-vous, lorsqu'une église tombe dans les ténèbres de l'erreur, c'est parce qu'elle a accepté l'amour de ce monde. Concernant la chute des Juifs ainsi que des églises romaines, c'est-à-dire celles qui donnaient naissance à la papauté, l'inspiration nous dit que en s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l'appui des pouvoirs de la terre, Rome s'est rendu coupable du même péché et encourt la même inculpation. Pouvons-nous lire dans Tragédie des siècles, page 412, paragraphe 3. Remarquez que les corps religieux dont il nous est parlé ici, à savoir le peuple juif, ainsi que Rome, l'église de Rome, remarquez que ces deux corps religieux-là furent condamnés par Dieu en raison de l'alliance qu'ils firent avec les puissances païennes de ce monde. Mais qu'en est-il de la suite? Veuillez prêter attention à la déclaration suivante. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ses filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ses doctrines et à ses traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne les organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Lisons-nous au même livre, à la page 413, paragraphe 1. Mes amis, l'Église adventiste du septième jour était censée être le corps religieux durant la dispensation du lieu très saint du sanctuaire. Le corps religieux que Dieu avait suscité pour, eh bien, porter la lumière de la vérité présente. Cependant, en raison de ce que l'histoire de l'Église nous apprend et de ce que nous avons vu durant cette première présentation, et notamment en raison de l'abandon de la foi de Jésus par cette Église. Et cela pour s'attacher à la doctrine de Rome, la doctrine principale de Rome, qui est la doctrine de la Trinité. Il est clair qu'elle est devenue une fille de la grande prostituée et que les déclarations précédentes et suivantes peuvent également s'appliquer à elle. Et considérons les déclarations suivantes qui peuvent s'appliquer à elle du fait qu'elle s'est attachée aux doctrines, à la doctrine de Rome. Étant donné, lisons-nous à la page 413 et au premier paragraphe du même livre, étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. En outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes du prophète, « Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. » Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Ézéchiel 16, versets 14 et 15. Cela est terrible. Cela est terrible. Mais allons encore plus loin. Et considérons maintenant comment le rejet de la foi de Jésus conduira ceux qui observent le sabbat et qui croient en la Trinité. Comment le rejet de la foi de Jésus conduira la dénomination des Adventistes du septième jour à rejeter le quatrième commandement? La papauté, mes amis, adore le Dieu qui revendique la sainteté du dimanche, n'est-ce pas? Et ce Dieu est la Trinité. Le révérend Henry Tuberville, dans The Douay Catechism, à la page 125, déclara à la question, suite à la question 1092, qui dit « Qu'est-ce que le dimanche ou jour du Seigneur en général ?» Le révérend Tuberville déclara « C'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ, notre Seigneur, se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé le jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine Dies Solis, le jour du soleil pour lequel il fut sanctifié. Ce révérend nous dit que le dimanche est le jour dédié pour en l'honneur de la Sainte Trinité, mes amis. Afin d'être en harmonie avec son nouveau jour de repos, L'Église catholique devait adorer le Dieu de ce jour. Il a fallu du temps pour que l'Église catholique accepte la doctrine de la Trinité, mais cela arriva. Or, quant au corps religieux observant le sabbat du septième jour souhaite être en harmonie avec le Dieu trinitaire, pensez-vous qu'il puisse continuer à adorer ce Dieu durant un jour qui n'est pas le sien? Non. Non, mes amis. Ainsi, la destinée de la dénomination des Adventistes du septième jour, adorant la Trinité, est d'abandonner le sabbat de l'Éternel pour adorer son Dieu, la Trinité, durant le jour qui lui est consacré, c'est-à-dire le dimanche. Et comme pour Rome, il faudra du temps, mais cela arrivera. Je parle au futur, mes amis, mais nous pouvons d'ores et déjà voir des mouvements montrant que l'avancement de cette destinée est en train de se développer. Pouvez-vous maintenant voir comment la doctrine de la Trinité, mais aussi toute fausse conception du véritable Dieu et de son Fils, est en train de préparer un peuple à recevoir la marque de la bête et de son image? Mes amis, en raison du fait qu'elle soit devenue une fille de la grande prostituée, en acceptant, entre autres, la doctrine de la Trinité, les membres de la dénomination adventiste du septième jour, aussi bien que les autres groupes chrétiens, ont besoin que nous les servions. Ils ont besoin du message des trois anges. Et ça, parce que Dieu a un peuple nombreux dans les rangs de ses corps religieux. Ils ont besoin de savoir, tous ces croyants qui sont dans ces corps religieux, où l'erreur domine, ils ont besoin de savoir comment obtenir la victoire sur la bête et son image. Ils ont besoin de connaître que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu nous as montré dans ta parole. Nous désirons avoir cette foi de Jésus, cette pureté doctrinale, afin que nous soyons dignes de te représenter et que nous soyons à même de pouvoir porter le message à ton peuple qui se trouve dans la confusion et qui est en train de boire le vin de Babylone. Seigneur, donne-nous de nous-mêmes de pouvoir avoir cette pure doctrine et de manière à pouvoir servir les autres qui ont besoin et qui aspirent à la lumière de la vérité. Merci d'agir dans ce sens pour nous et donne-nous la victoire sur la bête et sur son image en nous accordant la foi de Jésus. Merci, tendre Père Céleste. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de ton Fils unique engendré. Amen.